Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, aujourd'hui, nouveau podcast sur un thème que je n'ai encore jamais abordé sur le podcast. Et pourtant, après plus de 250 épisodes enregistrés, il me reste encore des choses à traiter. Et ça, c'est passionnant. Et c'est François-Xavier et Jean-Marie qui m'ont contacté pour parler de Swimrun. Comment allez-vous ?
Très bien.
Bonjour.
Eh ben, allez, c'est parti du coup. Trop bien. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors c'est Jean-Marie. Moi, je suis ingénieur de formation, mais actuellement, mon travail, c'est photographe de sport, outdoor. J'ai aussi fait partie d'un magazine outdoor. Et depuis, on va dire, 7 ans, je me spécialise dans le swimrun en tant que photographe. Et je fais pas mal de Coupes du Monde à ce sujet. Et après, on va parler de swimrun, France, mais voilà, un petit résumé, c'est ça.
Bonjour, moi c'est François-Xavier Lee, je suis à l'origine un scientifique en optimisation du mouvement. J'ai été prof à l'université, enseignant-chercheur en Angleterre pendant longtemps, et là je suis de retour en France. J'étais sportif de haut niveau aussi, en voile, rien à voir avec le swimrun. Et on a fondé Swimrun France ensemble avec Jean-Marie. 2015.
Alors, qu'est-ce que c'est que Swimrun France ? En fait, c'est une association, c'est un club, c'est une fédération. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est d'abord une association loi 1901. On est trois dans l'association. Et l'objectif de l'asso, c'est de promouvoir le swimrun en France, qui à l'époque n'existait pas, presque pas en 2015. Voilà. Donc, vraiment l'objectif, c'est de faire promouvoir ce sport en France. C'est relativement simple comme objectif.
Oui, ou en France, ou en tout cas en langue en francophone, parce qu'on a aussi des Belges et des Canadiens qui suivent aussi.
Enfin, excuse à vous.
Et alors, quel est l'état du swimrun actuellement en France ? C'est un sport qui connaît un beau succès, un petit peu comme la course à pied en ce moment. C'est vrai qu'on entend de plus en plus de gens se dire qu'ils se mettent à la course à pied, au trail notamment, passer de la route au trail. Et est-ce que le swimrun connaît ça aussi, un petit petite explosion du nombre de participants, du nombre d'événements ? C'est quoi l'état des lieux un peu en ce moment ?
Alors, c'est bien simple, hein. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a commencé en 2015, il y avait 3 épreuves de swimrun en France. Et là, on est en 2023. Donc, on peut dire qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine de courses en France et plus de 150 dans le monde, voire 200. Donc, c'est un des sports d'endurance, où je pense que c'est le sport d'endurance qui a le plus explosé ces derniers temps. Après, on est parti de pas grand-chose. Mais voilà, ça correspond vraiment à un sport qui est dans l'air du temps, parce qu'il y a beaucoup d'images par rapport à la liberté, à la nature, à des choses qui appellent beaucoup les personnes à avoir une relation dans le sport avec la nature. Voilà, c'est vraiment l'appel de ce sport qui est très récent.
Ça reste quand même un sport relativement petit par rapport aux grands sports comme le football, le cyclisme, etc. Il faut être réaliste aussi.
Mais c'est un sport qui est très jeune.
Et c'est passionnant parce que ça veut dire qu'il y a tout à faire et et du coup plein d'objectifs pour ceux qui veulent se lancer dans cette discipline. Du coup, enfin moi je suis complètement novice hein, sur ce sport-là. J'en ai entendu parler parce que j'habite en Bretagne et à Belle-Île. Il y a un trail qui s'appelle le Belle-Île en Trail et les organisateurs du Belle-Île en Trail l'organisent une année sur deux et l'autre année ils organisent un swim run. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce sport. Je trouvais ça génial en fait, l'idée de passer d'une crique à l'autre à la nage et puis après de prendre le sentier et puis de partir en courant. Comment sont classées les différentes distances? Parce qu'en trail, bon, on a des trails courts, les trails longs, en course à pied, il y a les semis, les marathons, c'est assez catégorisé. Est-ce qu'il y a des catégories comme ça de différentes distances, différentes difficultés? Parce que j'imagine que d'aller courir d'aller nager sur un lac ou en mer, c'est pas pareil. Enfin, il y a des différences comme ça entre les différentes épreuves.
En fait, c'est l'une des caractéristiques du swim run, c'est que pour l'instant, il y a très 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 peu de structures légales et de règles par rapport à ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, et ainsi de suite. Donc historiquement, la première course, c'est vraiment à Lutelö en Suède, où il y a une traversée d'un archipel. Mais après, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que les distances de natation, les distances de trail ou de route, parce que rien n'empêche de courir sur la route aussi, sont complètement libres. Alors évidemment, il y a des petites tendances à dire un S, un M, un L, parce que ça simplifie la chose pour les gens. Mais juste par exemple, pour parler de la Bretagne, juste la contrainte de la marée. Si un concurrent passe, par exemple, 5 heures avant un autre, la distance de natation ou la distance de course à pied va changer. Donc, il y a énormément de variabilité. Et c'est aussi l'idée de traverser dans la nature de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'à un endroit, il va y avoir une plage, on va pouvoir se mettre à l'eau ou sortir de l'eau. À un autre endroit, il va y avoir une falaise et on ne va pas pouvoir faire une sortie d'eau, par exemple, là, où les conditions météo empêchent. Donc, c'est extrêmement libre et très variable.
Je vais ajouter une chose, c'est qu'en général, le ratio course à pied et natation est entre 15% natation et 25% natation maximum, à peu près. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des différences. Et on peut savoir d'expérience que quand il y a 25% de natation dans un swimrun, c'est plus réputé pour les nageurs qui sont avantagés. 15%, c'est peut-être plus les trailers. Bon, voilà, c'est à peu près le ratio que la plupart des organisateurs maintiennent à ce niveau-là. Encore un autre détail, j'aime bien faire la comparaison entre le trail et le marathon, et le triathlon et le swimrun. C'est à peu près les mêmes analogies qu'on peut faire, à savoir que bon, le triathlon qui utilise la natation et la course à pied, avec un aspect plus peut-être des fois route, etc. Nous, on l'importe dans la nature et effectivement, c'est un peu la nature qui dicte, comme le dit François, le parcours. On va pas faire 500 mètres pile de natation, c'est pas possible. Voilà, c'est un petit peu l'analogie que je voulais faire à ce niveau-là.
Là, c'est intéressant cet aspect différenciant de chaque parcours. En fait, on peut pas vraiment standardiser, si ce n'est peut-être autour d'un lac où il y aurait des sorties absolument partout, et puis de retrouver un autre même territoire qui aurait les mêmes conditions. Mais ça doit être difficile en fait d'organiser un championnat très standardisé avec des distances similaires à chaque fois pour pouvoir faire un classement, en fait, ouais, ça doit être compliqué. Ça, c'est un petit peu comme le trail, effectivement, ou un trail en hiver versus en été, si tu es dans le désert ou en montagne. Enfin, ça reste presque deux sports différents. Vous disiez qu'il y avait pas loin de 150 épreuves dans le monde. On est comment, nous les Français, pour moi qui ne connais pas du tout ce milieu?
Ah, c'est plutôt 300 épreuves.
300? Et du coup, les Français sont bons à cette discipline. On est classé comment par rapport à nos autres amis d'ailleurs?
Ouais. Alors oui, il y a vraiment une histoire à ce niveau-là, à savoir que depuis 2005, le sport existe en Suède. Les Suédois ont dominé largement ce sport, mais depuis 2016, 2017, 2018. Les Français ont vraiment adopté ce sport. La croissance a été exponentielle. Nous, on a eu une montée en puissance incroyable grâce aux réseaux sociaux, l'idée de swimrun s'est propagée à une vitesse qu'on a trouvée incroyable. Et il y a des sportifs de haut niveau qui se sont mis au swimrun, et notamment Hugo Tourmento et Mathieu Poulain, qui ont commencé à gagner les Coupes du Monde à partir de 2019. Et au fur et à mesure des années, jusqu'en 2022-2023, on a vu des Français qui grignotaient des places, 10e, 8e, 5e, podium et la gagne. Et jusqu'à ce que l'an dernier, Hugo Tourmento, avec son ami suédois, a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est le premier champion du monde français avec un suédois à gagner la Coupe du Monde, champion du monde, excuse-moi, de swimrun à Lutileux sur les terres des Suédois. Et maintenant, là, je pense que la France est la deuxième nation de swimrun au monde après les Suédois. Et si on continue sur cette tendance, on va être la première nation.
Bon, bah voilà, encore un sport où on va devenir les meilleurs, c'est génial. Ouais. alors, tu disais qu'on était sur un sport qui était en duo, en binôme. C'est tout le temps à deux que ça se passe, parce que j'ai souvenir de voir des photos de coureurs qui, enfin de coureurs ou nageurs d'ailleurs, qui sont attachés l'un l'autre. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est toujours à deux? Est-ce qu'il faut toujours être attaché?
Alors, à l'origine, c'était exclusivement en binôme. C'est parti d'un pari entre quatre copains, et c'était deux contre deux. En grande partie pour des raisons de sécurité. Donc ça, on peut comparer ça, par exemple, pour les trailers, la Pyramenta qui s'est passée récemment. Donc c'est en binôme. Le fait d'être attaché, c'est 100% libre. Ça apporte beaucoup d'avantages, surtout en natation, entre autres pour savoir où est l'autre, pour tracter l'autre personne. En course à pied, les gens se longent un petit peu moins. Ça crée des contraintes. Hein. Quand on connaît le trail, il y a des endroits où on n'a pas tellement envie d'être attaché. Quand il y a quelqu'un qui saute un rocher en bas, par exemple, et qu'on est derrière, qu'on n'a pas encore sauté, ça crée des contraintes. Mais non, on n'est pas du tout obligé d'être attaché. C'est libre. Et donc à l'origine c'était en binôme, et petit à petit l'idée de le faire en solo a un peu gagné, entre autres parce que c'est pas toujours facile de trouver un partenaire, un ou une partenaire pour former un binôme, que ce soit à cause des lieux d'entraînement ou des capacités à trouver quelqu'un avec qui on s'entende bien au niveau personne mais aussi au niveau sportif. Donc, il y a beaucoup d'épreuves qui ont créé ou ouvert, plus exactement, l'option pour les solos. Mais ça reste essentiellement, à l'origine et dans l'éthique, un sport en binôme.
Et quels sont les profils des participants? Est-ce que c'est plutôt des nageurs qui se mettent au swimrun ou plutôt des coureurs qui se mettent au swimrun? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine clairement ou est-ce que ça vient d'un petit peu partout, voire même d'autres sports comme pour toi la voile auparavant?
Alors au départ, on va dire en 2015, entre 2015 et 2017, on a eu des profils, tout type de profils qui sont venus sur le swimrun. Ça peut être des trailers, ça peut être des basketteurs, ça peut être des footballeurs, des nageurs bien sûr aussi, majoritairement des nageurs. Mais depuis 2017, on va dire que la Fédération française de triathlon, excusez-moi, a repris sous son égide la délégation du swimrun. Et ils ont communiqué à travers tout leur club le swimrun, et donc on a eu une grosse affluence de triathlètes. Donc la majorité en France, des gens qui se mettent au swimrun sont plutôt des triathlètes. Après, ça peut être des nageurs et des trailers.
À l'origine, pour ajouter quelque chose, à l'origine, c'était surtout des aventuriers, des baroudeurs. J'ai fait le premier en 2012 et on retrouvait des gens qui faisaient, par exemple, le Northman ou qui faisaient des épreuves un peu d'aventure, des raids, des choses comme ça. Et petit à petit, c'est les gens qui font des sports un peu plus classiques s'y sont mis. Il y avait vraiment une notion d'aventure au début, on partait dans l'inconnu. entre autres sur le matériel, on peut en revenir hein, sur le matériel. Il n'y avait rien, il y avait tout à inventer, comme tu as dit, il y a encore beaucoup d'évolutions. Donc c'est des gens qui osaient, qui allaient littéralement se jeter à l'eau et aller d'un point à un autre sans trop savoir ce qui se passait.
Oui, tout à fait.
Et alors justement en fait c'était justement une de mes questions concernant le matériel parce que on imagine bien que nager avec des chaussures lourdes c'est compliqué mais en même temps courir avec des chaussures dites fines ou minimalistes c'est pas très adapté à tous enfin du moins faut s'adapter ça demande une transition si jamais on n'est pas habitué comment est-ce que le matériel s'est adapté a évolué quelles sont les erreurs à éviter aussi peut-être en termes d'équipement
alors il faut revenir au tout début du swimrun qui a été inventé par quatre copains voilà, c'était à Paris entre la suite d'une soirée un peu arrosée et ils ont dû tout inventer pour pouvoir aller d'un point A à un point B à travers l'archipel de Stockholm, et ils ont tout essayé. La philosophie, en fait, c'était démerde-toi, trouve-toi le meilleur matériel, etc. Mais si tu dois tout le transporter avec toi, tu peux. Et cet état d'esprit est resté très longtemps. C'est-à-dire que même quand c'est devenu un sport avec Michael et Mats, qui l'ont mis au niveau d'un vrai sport, avec une vraie compétition, ils ont voulu faire le moins de règles possible. Parce qu'ils voulaient que ce soit les swimrunners qui inventent leur sport. Donc, on pouvait venir avec des palmes, avec des matelas gonflables, avec tout un tas d'idées. Et chaque année, au championnat du monde, tout le monde se regardait. Lui, il vient avec ça, il vient avec ci, etc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout le monde y pensait toute l'année. Il pensait à comment essayer d'avoir le meilleur équipement possible, etc. Maintenant, au fil des temps, on va dire que ça s'est un peu stabilisé. Mais il y a toujours cet aspect d'innovation, etc., qui fait que les règles sont faites pour être au minimum, pour favoriser l'innovation. Et on a, de ce fait-là, vu plein d'innovations qui venaient de la base. Donc, c'est pas vraiment, pas du tout un sport qui est de top-down, c'est vraiment, ça vient de la base, et c'est eux qui font leur sport. C'est ça qui est vraiment fabuleux avec ce sport, c'est que les concurrents, les swimrunners ont inventé leur sport.
Ouais, ça me fait un petit peu penser parce que je suis pompier aussi volontaire et en fait on voit qu'il y a beaucoup d'innovations de techniques de secourisme ou de matériel qui servent aux pompiers et qui servent surtout aux victimes qui sont inventées par des pompiers eux-mêmes et qui réfléchissent en fait à comment est-ce qu'ils pourraient améliorer leur travail et en fait bah là pour le coup c'est un petit peu similaire ça veut dire que c'est les participants eux-mêmes qui développent leurs propres équipements pour faciliter leur progression. C'est marrant, génial.
Oui, pour l'essentiel, les marques ont copié et ont repris ce que les individus ont fait, évidemment, n'ont pas patenté et ainsi de suite. Par exemple, la première combi de spécifique combinaison néoprène a été faite par la marque Head. Et c'est uniquement des Suédois qui ont demandé au responsable Stefan Spooner de s'ils avaient ils leur donnaient l'autorisation de modifier une combinaison pour ajouter un zip devant alors que les combinaisons s'ouvraient tout le temps à l'arrière est-ce qu'on peut faire ça à ton matos il a dit oui allez-y banco et ça a continué ça a perduré jusqu'à maintenant une chose qu'il faut souligner c'est que une seule règle vraiment constante. On part avec tout son matériel et on arrive avec tout son matériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déposer quelque chose ou évidemment de jeter dans la nature. Ça, c'est un non, non, non. Mais aussi, par exemple, on parlait des chaussures ou de, si on part le matin, il fait très froid et qu'on arrive dans l'après-midi en plein soleil où il fait chaud, eh ben, il faut s'adapter et être capable de quand même performer dans le froid, dans le chaud, il y a des vagues, il y a pas de vagues. On pense toujours à l'hypothermie, mais l'hyperthermie est tout aussi importante parce que courir avec une combinaison de néoprène dans la chaleur, ça peut très rapidement dégénérer en hyperthermie.
Ouais, tu fais bien de le souligner, et ça, c'est quelque chose qui, quand j'ai passé mon DU Trail Running à Grenoble, je me souviens que qu'un des professeurs avait justement souligné ça, que il y avait une tendance à vouloir courir parfois déguisé, avec des gros équipements sur soi, et que ben ça pouvait occasionner des hyperthermies, et que ça, c'était un des risques un peu sous-estimé ou pris un peu à la rigolade, mais que ça pouvait parfois avoir des conséquences assez dramatiques. Quels sont les si par exemple demain là je me lance sur un swimrun, quels seraient les quelques conseils, les quelques erreurs à éviter ou les classiques que font les débutants? Il y a des standards comme ça à éviter?
La première, ce serait, est-ce que, sachant que à peu près tout le monde sait un peu courir, est-ce que tu sais nager? Probablement le premier chose. Mais quand je dis savoir nager, en fait, beaucoup de gens, une des choses qu'on voit régulièrement, c'est les gens qui disent, oui, pas de problème, je sais nager 1000 mètres, je peux faire. Mais en fait, ils sont habitués à nager ou bien uniquement en piscine et non pas en eau libre, ou en eau libre, mais extrêmement lisse, extrêmement plate, sans vagues, sans courant, sans rien. Donc la première, je dirais, c'est être capable d'appréhender la nature aquatique, parce que à peu près tout le monde peut, au pire, marcher sur la terre. En mer, il faut être capable de ne pas paniquer, de savoir où on va, d'apprécier que ben si on prend une vague dans la figure, c'est pas le drame, ça va passer. Il faut souligner, il n'y a jamais eu de noyade en swimrun ou d'hydrocution, donc ça c'est une bonne chose qu'il faut continuer à garder. Mais disons que ça, la première chose, c'est être capable de comprendre que on va aller dans de l'eau naturelle et non plus dans une piscine chlorée, aseptisée, où on y voit très bien, et ainsi de suite.
Moi, j'ajouterais une chose, c'est que l'expérience en binôme est hyper importante. Et en trail, je sais qu'il y a aussi des trails, des fois, où on est en duo. Donc, c'est un petit peu le même esprit. À savoir que quand on se met en binôme, il faut faire une confiance absolue en son binôme. Et ne pas, comment dire, souffrir dans son coin et claquer en plein milieu de l'océan. Il faut communiquer tout le temps et dire, voilà, je suis pas bien, etc. Il faut que, en fait, on mette un peu l'ego de côté. Et c'est pas facile. Dire, voilà, je suis pas bien, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Demander de l'aide. Et puis, peut-être que 2 heures après, c'est ton copain ou ta copine qui est mal et puis que tu l'aides. Ça, c'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'il faut faire face à ses propres faiblesses et puis le dire.
C'est un petit peu comme les formats sur l'UTMB. Il y a un format qui s'appelle la PTL. C'est un format de plus de 300 km où les coureurs partent à 3 et doivent revenir au moins à 2 et de rester ensemble tout du long. Et enfin, on imagine bien, hein, presque une semaine à être en binôme, à très peu dormir et puis à progresser dans des milieux parfois un peu hostiles. Ils partent avec un casque quand même, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, que ça peut être dangereux pour eux. Il y a une entente à avoir et puis à vérifier en fait avant de partir, parce que c'est pas quand on est dans la difficulté qu'il faut se rendre compte que finalement le binôme ne tient pas. Et quelles sont les distances les plus longues en swimrun? Ça va jusqu'à l'ultra ou on reste quand même sur des formats à la journée?
Alors, normalement, c'est le format à la journée. La référence de base, on a dit, c'est le TLE, où il y a 65 km de course à pied et 10 km de natation, évidemment enchaîné, hein. Donc, les distances de natation, c'est pas 10 km d'un coup, mais plutôt 1,5, 1,6, des choses comme ça. Comme d'habitude, les gens ont poussé cette notion. Donc, le TLE, qui est une partie de l'archipel, a été prolongé. Donc, il y a des gens qui ont fait des ultras justement sur plusieurs jours. Donc, on trouve des choses comme ça. Ça ressemble plus à du trail ou, comme tu mentionnais, la petite trotte à Léon.
À Léon, oui.
C'est bien, la PTL. On en trouve, mais relativement peu. Ça reste, c'est généralement pas organisé pour la plupart en course, mais plutôt en raid que les gens organisent par elles-mêmes. Il n'y a pas encore beaucoup d'épreuves qui passent sur plusieurs jours. Entre autres, la navigation en mer, en nageant de nuit, est extrêmement compliquée. Donc généralement, même dans ces raids, les gens s'arrêtent de nuit.
Une exception, c'est la One Water Race.
Qui est ?
Qui est une course qui fait tout l'archipel de Stockholm et qui fait 250 km. Donc c'est sur entre 2 et 4 jours. Et c'est réservé à des groupes, ça tient plus du raid qu'autre chose. Donc ils ont 4 jours pour le faire. Et tu as peut-être une dizaine d'équipes maximum de 4, avec un capitaine qui est dans un bateau qui les suit. Donc c'est très spécifique. Et là, on avait essayé de monter une équipe de France, on n'a pas réussi à trouver des gens qui soient capables de faire ça. Parce que il y a aussi de l'orientation.
Et du coup, ça veut dire qu'ils partent aussi dans ces cas-là avec leur propre équipement du début à la fin, ou ils ont le capitaine qui peut leur donner des...
Oui, il y a des exceptions par rapport s'ils veulent se reposer sur une des îles, le capitaine peut leur apporter en bateau une sorte de tente pour qu'ils dorment. Mais c'est pas du confortable du tout.
Oh, ça doit être un délire.
Non, c'est très... On savait pas s'ils pouvaient le faire. Ils ont fait ça l'an dernier. Il y en a 3 équipes qui ont fini. Je crois 7 ou 8 qui n'ont pas pu finir parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas réussi à s'orienter. Et ça recommence cette année. Mais bon, c'est vraiment un ovni pour l'instant. C'est vraiment tout nouveau.
Mais de la même manière, c'est la même histoire que le Tilo. Cette traversée commence à être organisée un petit peu en course. À l'origine, c'était juste quelques individus suédois qui ont dit le Tilo, c'est une partie de l'archipel. Nous, on va faire l'archipel entier.
Et alors, ça me fait penser à une question, parce que là, je lance un nouveau podcast qui s'appelle Orga, qui est destiné aux organisateurs d'événements sportifs. Et parce que j'organise le Grand Raid du Finistère et tous les sujets de l'organisation pour faciliter la vie des organisateurs, et ça j'adore ça. Quand on pense swimrun, quand on voit déjà toutes les contraintes qu'il y a à organiser un événement rien que sur la terre, organiser un événement sur terre et sur mer, ça doit demander des démarches administratives. Et c'est compliqué à organiser un swimrun en France aujourd'hui ou ça va?
Oui, non, tout à fait. En tant qu'organisateur, tu connais bien le problème. C'est à tous les niveaux. C'est pas toujours la sécurité qui vient tout le temps à l'esprit de tout le monde, mais en fait, c'est les autorisations. Par exemple, les sorties d'eau, Natura 2000 restreint beaucoup, et à juste titre, c'est pas une critique, les entrées, les sorties d'eau. Il y a une anecdote, par exemple, il y a un organisateur à Berck, Jean-Marc Lamblin, qui a organisé le Tiemann, qui, lui, a la particularité d'avoir une épreuve qui se déroule en mer, en lac et en rivière. Il multiplie les contraintes. Et une des demandes qui lui avait été faite, c'est en cas de tsunami, qu'est-ce que vous prévoyez? À Berck.
Donc, on n'est jamais trop prudent.
Voilà. Alors l'avantage, c'est quand même honnêtement, c'est en cas de tsunami, je pense que les swimrunners sont probablement parmi les mieux équipés
pour faire face. On leur fournit un surf.
Ouais, tout à fait, surfeurs aussi. Mais disons que pour être plus en dehors de l'anecdote, oui, les courses sont compliquées à organiser. On multiplie les contraintes. D'orientation, de sécurité en mer, de sortie et d'entrée d'eau, parce qu'en dehors des autorisations, il y a aussi les possibilités. On parlait par exemple de la météo. Par exemple, on peut avoir un vent dans une certaine direction, la sortie d'eau est très facile, et avec un vent dans l'autre direction, la sortie d'eau est délicate avec des vagues. Donc oui, c'est compliqué à organiser.
Ouais, parce que tu vois, j'ai fait un triathlon à Quimper. Bon, t'es dans, je sais pas si vous connaissez Quimper, mais c'est traversé par l'Audet et le triathlon, la nage se passe dans l'Audet. Bon, c'est un aller-retour. Tu mets quatre gars avec des paddles et puis une équipe de secours sur les côtés. Bon, ça va, tu t'en sors. Mais en mer avec des participants qui sont répartis à plusieurs endroits différents. Comment est-ce qu'on assure la sécurité de ces personnes? Est-ce que eux-mêmes d'ailleurs ils ont une bouée pour nager, parce qu'on voit souvent les gens qui nagent en mer comme ça qui sont signalés avec un flotteur. Enfin, toutes ces questions en fait d'organisation, ça doit paniquer un peu les préfectures et les mairies, ça.
Oui, un peu. Alors c'est marrant parce que parfois, au contraire, il y en a qui sont un petit peu entre guillemets non conscients, j'allais dire inconscients, mais c'est pas le bon terme, des contraintes. Les bouées, il y a très peu d'épreuves qui les imposent. À l'entraînement, c'est une très bonne chose à faire, c'est hautement recommandé. En fait, c'est plus pour la visualisation. Ça peut aider pour les crampes, mais si on a une combinaison néoprène, même avec une crampe, on va pas couler. C'est impossible de couler. Par contre, ça rassure et surtout, on vous voit, on voit les concurrents. Donc ça, c'est très utile. Mais ça fait vraiment partie du sport. Par exemple, si on fait une épreuve, et tu as entièrement raison, au début, tout le monde est groupé, et puis petit à petit, comme tous les sports d'endurance, ça s'éparpille. Pensons par exemple à la marée vers Quimper. Ben oui, il y a la marée. Et on peut avoir un organisateur qui part, par exemple, je ne sais pas moi, à marée basse, tout va bien. Et puis au milieu de l'épreuve, 6 ans après, on est à marée haute. Puis il y a la renverse. Et il y a un passage, il y en a qui vont passer avec, par exemple, le courant de droite à gauche et d'autres le courant de gauche à droite, ou dans le nez, et ne plus arriver à nager. Donc au niveau de sécurité, tout dépend de l'endroit. Un paddle, un bateau. Généralement, les organisateurs qui sont dans des lieux un peu compliqués de ce côté-là aussi donnent des indications. Attention, il y a du courant de droite à gauche, partez plutôt vers la droite et il vous déportera vers le lieu où vous allez. Mais ça reste de la nature. Il faut avoir le mieux quand même, c'est, je disais au début, c'est de savoir lire la nature.
Ouais, c'est vraiment un sport qui est en connexion avec la nature et les éléments. C'est tu vois, je suis en train de naviguer un peu sur votre site en même temps qu'on discute, et je reviens sur le sujet de l'équipement. Je vois des nageurs avec des plaquettes. C'est quelque chose qui est obligatoire, imposé, qui est conseillé. Est-ce qu'il y a d'autres équipements comme ça qui seraient obligatoire? Je vois aussi un flotteur.
Alors, rien n'est imposé, hein. C'est, sauf peut-être les lunettes de natation et le bonnet. Ouais, on va dire ça. Les équipements qui sont très conseillés, effectivement, c'est les plaquettes et le pull buoy. C'est le flotteur que l'on met entre les jambes. On va dire que la plaquette, il n'y a pas vraiment de dimension maximum, c'est tout ce que tu peux emporter, mais bon, si tu mets des grosses plaquettes, c'est comme si tu mettais une plaque, la plaque au vélo, un grand plateau, il faut pouvoir l'emporter. Après, le flotteur, il y en a des plus ou moins surdimensionnés, mais si tu n'as pas le gainage pour pouvoir le maintenir sous l'eau, eh ben, tu vas nager avec le cul à l'air, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil, ces équipements là où t'as l'impression que ça te fait gagner du temps, et quand tu nages un petit peu avec les 25-50 premiers mètres, tu te dis ouais, je fonce, mais va tenir un kilomètre avec ça, c'est plus compliqué, quoi.
Tout à fait. Et aussi on peut dire que ces derniers temps les plaquettes ont un peu évolué vers les plaquettes carbone, mais c'est vraiment, dire, ceux qui veulent vraiment gagner de la légèreté, qui sont déjà très forts à la base, voire qui sont vraiment fanas de swimrun, ils achètent ça pour faire classe.
Ouais, ça c'est un petit peu comme en triathlon, la course à l'équipement, celui qui a la dernière paire de roues carbone, qui pour optimiser un peu tout, mais il y a, je pense, beaucoup d'éléments à travailler à l'entraînement avant d'aller chercher des optimisations sur l'équipement.
On a fait un petit test sur les différents pool boys, parce qu'on a, pratiquement tous les pool boys du marché pour faire des tests. Et sur 100 mètres, entre le moins, enfin, le pool boy le plus léger et le pool boy le plus gros, sur 100 mètres, il peut y avoir une différence de 10 secondes presque. Après, il faut pouvoir l'emmener, le pool boy. Mais c'est très, très important, l'effet du pool boy sur la vitesse de nage.
Alors, tu parlais de nager avec des grosses chaussures ou des minimalistes tout à l'heure. Et c'est en fait l'idée principale du pool boy. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des chaussures aux pieds, les battements de pieds sont très inefficaces avec n'importe quelle chaussure. Donc, en réalité, on bat très, très, très peu des pieds ou pas du tout. Et on les laisse juste dans le sillage. Et le pool boy permet de lever le corps le mieux possible. Les vrais nageurs n'ont souvent pas besoin de ça, mais ils les portent quand même parce que c'est un avantage. Les non-nageurs découvrent très rapidement que sans pool boy, ils avancent pas les jambes. Alors, c'est pas les chaussures qui coulent. Beaucoup de gens disent « Ah ouais, mais les chaussures me coulent ». Non, non, elles sont presque toutes faites en mousse et à peu près toutes les chaussures flottent. Donc, c'est pas les chaussures qui font couler. Par contre, elles changent l'hydrodynamique et là, effectivement, on a les jambes qui tombe, mais à cause de l'hydrodynamique. Donc, ça revient à entraînement. Plaquette trop grosse, ben, on va se faire mal ou on va plus avoir la force pour les tirer. Donc, il faut s'entraîner et trouver le matériel adapté. Pareil pour les pole boys, pareil pour les chaussures. Hein. On peut en revenir. La tendance, c'est quand même des chaussures plutôt minimalistes. Mais ça, comme tu disais, ça ne convient pas à tout le monde du tout. Donc, au niveau de l'équipement, un trailer qui veut se mettre au swimrun, le meilleur conseil, c'est prendre les chaussures qui te vont bien à toi en ce moment. Regarde pas les marques, les modes, etc. C'est quoi comme chaussure que tu utilises quotidiennement pour aller courir? Prends celle-là, ça sera les meilleures.
C'est pour ça que j'habitue mon fils à courir avec des aqua shoes.
Super. Pieds nus, c'est encore mieux.
Pardon? Pieds nus, ouais, bien sûr. Mais à l'école, c'est pas encore très à la mode, pieds nus.
Effectivement. Il faut déménager à Tahiti.
Voilà, c'est ça. Non, c'est tout un sujet passionnant, ces histoires de chaussures, et ça a animé les débats un petit peu moins en ce moment, j'ai l'impression, dans le milieu du trail. Mais c'est vrai qu'il y a une période, c'était assez hardcore, les deux équipes qui s'affrontaient, maximaliste, minimaliste, pieds nus. Mais ça s'est un peu calmé quand même, ces sujets-là.
Ouais. Pour l'anecdote, j'ai fait des recherches dans mon labo sur ce sujet-là, donc on pourra en reparler une autre fois.
Ouais, tu dois être bien calé, j'imagine, sur toutes les techniques de course, etc. D'ailleurs, en termes de performance, bon, on imagine que pour économiser les jambes pouvoir performer en course à pied, ben, en natation, on va privilégier les bras. Et d'ailleurs, le pool boy et les plaquettes favorisent ça. Quelles sont les techniques d'entraînement spécifiques, parce que j'imagine que les transitions aussi, il faut les travailler. Tu vois, j'ai un souvenir de mon premier triathlon où quand je suis sorti de l'eau, le fait de passer en position allongée à la position debout, j'ai eu la tête qui tournait pendant quelques temps. Alors là, j'imagine que de répéter en fait ce mouvement là peut-être que ça se travaille. Enfin, c'est quoi en fait les techniques d'entraînement et de pour le swimrun?
Tout dépend en fait du background des personnes. C'est pas pareil d'entraîner quelqu'un qui vient du trail que entraîner un nageur, par exemple, hein, pour faire simple. On peut aussi tout à fait différencier les entraînements et par exemple courir d'un côté et aller nager de l'autre et de temps en temps mettre les deux ensemble. Il faut multiplier ça par le fait que quand on fait une compétition en binôme, ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui court 30% plus vite que l'autre si l'autre n'est pas capable de suivre ou va s'épuiser, comme disait Jean-Marie, et ne rien dire et d'un coup exploser. Donc au niveau entraînement, je dirais c'est toujours travailler sa partie la plus faible, Notre point faible, on en a tous un. Alors pour l'un, pour une personne, ça va être courir, une autre, ça va être nager, etc. Les transitions, tu as entièrement raison, c'est important, et ce phénomène de déséquilibre qui est à la fois l'oreille interne, mais aussi l'afflux sanguin, hein, quand on est en position allongée, en position verticale, c'est pas le, il y a une balance qui doit s'effectuer. Certaines personnes sont plus sensibles à ça que d'autres, mais de toute façon, ça s'entraîne, ça se pratique. Et aussi, essayer de penser au milieu. L'analogie pour les trailers, elle est très simple. Est-ce qu'on va faire de la piste pour aller préparer l'UTMB? Et oui, ça permet de courir, mais c'est pas nécessairement le optimum. Et de la même manière, est-ce que nager en piscine juste avec sans plaquettes, sans pool boy, sans chaussures, en faisant des superbes virages culbute, ça, c'est l'entraînement parfait pour le swimrun? Oui, c'est utile, mais à un moment, nager avec tout l'équipement, c'est autre chose. Et d'ailleurs, les vrais nageurs, souvent, qui sous-estiment un petit peu ça, justement, qui se disent, ouais, bon, moi, je sais nager, de toute façon, vu les vitesses à laquelle vous allez, j'ai aucun problème. Ils ont raison, leur technique de nage est bonne, mais il faut aussi l'adapter. Donc, le scénario idéal, s'entraîner avec son ou sa partenaire, dans le milieu dans lequel on va faire l'épreuve. Ça, c'est l'idéal, ça arrive très, très rarement, mais on peut y pousser.
Si je peux ajouter une chose, c'est que, en fait, on a tellement d'équipements à gérer pendant les transitions qu'il faut vraiment s'entraîner. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on arrive du trail, etc., la plupart des débutants, ils arrivent, ils sont à 5 mètres de la plage et ils pensent à mettre leurs lunettes, leur bonnet, et en fait, ils s'arrêtent dans l'eau, ils s'arrêtent pendant 30 secondes à changer, à mettre le pool boy, à mettre le, et une fois sur deux tu oublies quelque chose, alors que les entre guillemets les professionnels, ils commencent à se changer 200 mètres avant d'arriver à l'eau, c'est-à-dire ils se rhabillent au niveau des zips des combinaisons, ils disent voilà bonnet, lunettes, ils se parlent tout le temps, bonnet, lunettes, etc., plaquettes, etc., ils arrivent dans l'eau, ils sont encore en train de courir et hop, ils se mettent à l'eau, alors que les débutants, ils s'arrêtent 30 secondes dans l'eau, et si on a, comme dans le Tilo, pas loin de 26 ou 28 transitions, eh ben, ça fait des dizaines de minutes à la fin.
Mmh. Ah, c'est vraiment tout un stratagème, plein de techniques, mais d'ailleurs, c'est comme en triathlon, hein, tu le vois, les temps de transition entre les premiers et les derniers, c'est juste faramineux, les différences qu'il y a, et encore, là, on parle d'une transition, si, comme tu dis, si tu les multiplies, c'est vraiment en fait un des éléments à préparer. Tu peux pas passer à côté, surtout que, enfin, si tu recherches la performance, si tu es au-delà de l'aventure.
Il y a aussi des éléments entre guillemets stratégiques à décider. Je te donne un exemple. Tu as par exemple une section de natation. Ok, tu sors de l'eau. De combien est-ce que tu vas te déshabiller? À combien est la prochaine sortie d'eau? Si elle est entrée d'eau, pardon. Si elle est par exemple à 500 mètres, tu gardes tout sur toi, à part le pool boy qui empêche vraiment vraiment de courir. Tu gardes tout, la combi, les plaquettes aux mains. T'enlèves juste les lunettes, mais tu les enlèves pas, tu les mets par dessus, juste sur le front. Maintenant, c'est pas 500 mètres, c'est 2 km. Là, tu peux commencer à dire ouais, 2 km, je vais avoir trop chaud, je vais ouvrir le zip, je vais enlever le bonnet. 5 km, qu'est-ce que tu fais? Et ces 5 km, il fait froid, il fait 10 degrés dehors ou il fait 25 degrés dehors? On parlait d'hyperthermie. À quel moment tu prends le temps de te déshabiller suffisamment, sachant qu'il va falloir que tu te rhabilles après, pour pas avoir d'hyperthermie, mais non plus pas perdre trop de temps? Donc, tu vois, il y a vraiment tout un jeu et qui peut changer au cours de l'épreuve. Le Tilo part à 5-6 heures du matin, il fait frais, personne ne discute, on est tous habillés à fond. Par contre, dans l'après-midi, il y a quasiment un semi-marathon à courir. Là, tout le monde se déshabille. Mais entre les deux, il faut arriver à trouver le bon compromis entre le temps que je perds à me déshabiller et à me rhabiller et qu'est-ce que ça va me coûter en termes de confort de course à pied, d'hyperthermie, etc.
Il y a quand même intérêt d'avoir des équipements qui sont quand même ultra adaptés à soi, et les combis c'est du sur-mesure, parce que courir avec une combi ça doit être pas simple, enfin je veux dire en termes de frottement à l'interjambe, enfin sur certains shorts je vois des amis qui débutent et qui ont qui saignent presque à ce niveau-là. J'ai vu ça sur l'ultramarin.
Pardon, c'est surprenant, mais c'est assez simple. Moi, la première fois que j'ai voulu en faire un, je me suis dit, j'ai aucune idée. Donc, il y avait un lac à peu près à 7-8 km. Donc, je quittais le bureau, habillé en combi, etc., en pleine ville. Donc, t'imagines le nombre de regards que j'ai eu. C'est un peu bizarre, c'est quoi ce mec qui court en combi. Mais en fait, ça passe très bien. Alors, un truc qui s'est standardisé, c'est que les combis sont coupés juste au-dessus des genoux. C'est très rare maintenant les combis longues au niveau des jambes, parce que vraiment, on court de manière beaucoup plus confortable. Les frottements, en fait, on les a très peu, parce que justement, ça frotte néoprène sur néoprène et non pas la peau sur la peau. Donc ça c'est assez simple, mais oui il faut essayer, vraiment c'est surprenant, mais tout comme nager avec des chaussures, ça passe très bien avec un pull boy. Courir avec une combinaison, on s'en aperçoit relativement peu. Évidemment le matériel a évolué, hein. Au début on avait des combinaisons beaucoup plus épaisses qui protégeaient à la fois du froid mais qui aussi nous faisaient flotter. Maintenant le matériel a évolué pour faciliter la course à pied, peut-être au détriment un petit peu de la flottabilité et de la protection pour la température. La flottabilité, on a augmenté la taille des pull boys, donc ça, ça a été à peu près compensé. Au niveau de la température, il faut arriver à encaisser ça.
Ah, c'est vraiment un monde à découvrir. Ça me donne envie. Alors, c'est vrai que la natation, faut y passer des heures et des heures à...
Très vite, quand tu veux.
Non, vraiment, moi, je suis curieux. Hein. J'adore découvrir des nouveaux sports et même me lancer comme ça sur des sports, même si je sais très bien que je performerai pas. Mais pour le défi et en fait, pour revenir un peu à l'origine du swimrun, le côté un peu à l'aventure, ça me plaît bien ça. Puis en plus, je vois qu'il y en a pas mal autour de chez moi, là, à Crozon, Fouesnant.
C'est la Bretagne est une terre de swimrun. Vraiment, par rapport au reste de la France, c'est un gros spot.
De toute façon, je n'arrête pas de répéter à qui veut bien l'entendre que la Bretagne est une terre sportive et culturelle. Ça, c'est mon mantra du Grand Raid du Finistère, donc ça me surprend pas tant que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé d'ailleurs, où est-ce qu'on suit vos récits, vos aventures aussi personnelles peut-être aussi, et que vous partagez ça, où est-ce qu'on peut suivre ça pour toutes les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur Swimrun France?
Bon, alors Swimrun France c'est évidemment un site, hein, swimrunfrance.fr, mais c'est aussi une présence sur YouTube où on met pas mal de vidéos. Moi, je mets pas mal de vidéos des calanques. Donc, je vous invite à regarder Swimrun France et les calanques. Et vous allez tomber sur des vidéos assez incroyables où on mixe à la fois la grimpe, le trail et la natation. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur le Facebook. On a un des plus grands forums au monde de Swimrun. Le plus grand. On a pas loin de 7500 membres. Bon, ils sont pas tous là en permanence, mais on a aussi un Instagram. On check pas mal de cases à ce niveau-là. Mais c'est surtout nous, ce qu'on veut faire, c'est que Swimrun France, c'est pour mettre le pied à l'étrier à tous ceux qui veulent débuter. On n'est pas spécialisé dans les athlètes de haut niveau, mais vraiment, on veut accompagner les personnes qui veulent débuter, les orienter sur les différentes communautés qui existent sur Facebook. Et c'est un peu là où on essaye de leur montrer les valeurs originelles du sport de swimrun, à savoir, on va dire, la solidarité, la protection de la nature, la performance, évidemment, l'endurance. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Et que toutes les questions sont valides, hein. Les novices, il faut vraiment pas hésiter. On a, tiens, je mets quoi comme lacet? Est-ce que la couleur de mes chaussettes est importante? N'importe quoi. La nutrition, comment transporter ma flasque d'eau? Parce que mon sac à dos de trail, ça marche pas en swimrun. Donc c'est vraiment comme a dit Jean-Marie pour aider, promouvoir, échanger. Et au début, on animait énormément le forum. Et ce qui est vraiment satisfaisant maintenant, c'est que la plupart des questions sont les réponses viennent d'autres participants du forum. Donc tout le monde met sa petite pierre à l'édifice.
Ouais, du coup, je suis allé voir un petit peu et en même temps là, et c'est vrai que bah c'est beaucoup, il y a pas mal de petites questions de recherche aussi de binôme aussi. Tu peux trouver un coéquipier suite à une blessure, des conseils sur l'équipement. Est-ce qu'il vaut mieux je lis en même temps une cagoule ou thermique ou un bonnet thermique. Enfin voilà, il y a des partages d'expériences et des recommandations pour telle ou telle course. Ouais, ça doit être une petite mine d'infos, ça, quand on débute, et ça doit
être. Moi, les cagoules me gênent. J'ai pas eu encore le temps de répondre. T'es vraiment à la dernière question. Tu as raison. Les cagoules me gênent sous le cou et m'empêchent de respirer confortablement. Mais je suis assez résistant au froid, donc je porte quasiment jamais de néoprène sur la tête. Je trouve pas ça indispensable. Mais il y a des gens qui en ont besoin.
Ouais, parce que quand tu vas dans l'eau froide, là, l'espèce de barre au niveau du front, elle fait mal.
Et moi, je l'ai quasiment jamais. J'ai nagé, j'ai fait le Norseman à nager 3,8 km en Norvège à 5 heures du matin. Et j'avais juste deux bonnets standards pour couvrir un peu la tête. Mais c'est aussi s'habituer et être. Il y a une notion, je crois, qui est super dans tout ce que qui sont les vrais sports, ce que j'appellerais les vrais sports de nature, c'est-à-dire comme le trail, le swimrun, la nage en eau libre, le skimo, toutes ces choses-là, c'est appréhender la nature, mais aussi appréhender les sensations qu'on a. On parle souvent d'hypothermie et d'hyperthermie, et en fait, avant d'être vraiment en vraie hypothermie, quand les gens disent « Oh, je suis en hypothermie, je tremble un peu », non, t'as froid. T'as froid et ton corps réagit et c'est encore tout à fait ok. Et accepter que un peu l'inconfort, par exemple, d'avoir un peu chaud, d'avoir un peu froid. Et on vit dans notre société, dans un climat tempéré à l'intérieur. Il fait entre 19 et 23, pas plus. 23, on va mettre la clim. S'il fait moins de 19, on va mettre le chauffage. Mais en fait, on a un corps fabuleux qui peut s'adapter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est redécouvrir un petit peu ça aussi.
En tout cas, ça donne envie, hein, d'aller nager à vos belles photos. Là, je regarde les photos de Jean-Marie avec dans les calanques. Là, ça donnerait presque envie de s'y remettre à la natation. Mais bon, je peux pas être partout. Faut choisir au bout d'un moment. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous auriez aimé ajouter, peut-être pour clôturer notre échange?
Moi, j'ai peut-être une petite maxime à dire. C'est que, en fait, le swimrun est arrivé récemment. C'est un des sports qui est très, très jeune. Et en fait, on est les héritiers de plusieurs sports d'endurance. Et j'aime à dire qu'on est un peu les enfants de trail et puis de la natation en eau libre. Et au final, ce qui nous rapproche tous, c'est qu'on fait des sports d'éléments. C'est vraiment ça. On fait des sports d'éléments. Et ces éléments nous changent aussi. La nature nous change, nous fait nous adapter. Et c'est pour ça qu'on a envie. Parce qu'on aime bouger dans la nature, dans les éléments.
Et on appréhende la nature un petit peu de manière différente. Tu parlais des calanques. Moi je suis né là-dedans. J'ai grandi là, mes premières sorties, je devais avoir 3 mois dans les bras de mon père ou de ma mère. Et en faisant du swimrun, on redécouvre ces endroits-là. Tu vois, tu parlais d'une crique, ou alors tu es à Belle-Île, où il y a un marais basse, tiens, il y a un rocher là-bas. tout ce que je fais en bateau, c'est l'éviter. Ben là, d'un coup, je peux y aller. Je peux y aller, le traverser. Ah, ben tiens, je peux faire ci, je peux faire ça. On appréhende la nature aussi de manière un petit peu différente du trail pur, de la natation en eau libre pure, ou même de la voile, bon, un de mes sports. Et c'est justement redécouvrir ça, et en groupe ou en binôme. On dit en binôme en course, mais en entraînement ou entre guillemets les off, on est souvent en groupe, et ça change aussi complètement le partage, l'échange qu'on peut avoir.
Bah écoutez, merci pour cette belle présentation de ce sport jeune, récent, mais qui à mon avis a un bel avenir, parce que tout le monde recherche un petit peu le goût de l'aventure, l'événement un peu nouveau, un peu novateur. Parce que quand t'as multiplié les trails, les distances, enfin, peut-être que c'est ce genre d'événement qui va connaître de plus en plus de succès. Et d'ailleurs, bon, c'est même factuel, hein, c'est déjà le cas. Donc, on peut suivre toutes vos aventures et puis vos conseils sur swimrunfrance.fr. Je mettrai les liens dans la description si vous n'avez pas de quoi noter sur vous, chers auditeurs. Et puis, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet épisode encore différent sur l'instant outdoor. Si les auditeurs, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller le dire à François-Xavier et Jean-Marie pour les remercier des conseils qu'ils ont pu donner dans l'épisode. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous les deux, et puis ben, peut-être à un de ces jours en Bretagne ou ailleurs.
Merci à toi, François.
Merci, François.
Avec plaisir, à bientôt.
À bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.